À quoi ressemble un beau paysage? Pour la plupart d'entre nous, la réponse est claire. Des montagnes, une forêt, un cours d'eau, de jolis petits villages. Notre perception du paysage est influencée par notre histoire et notre culture. Dans ce nouveau numéro de La Chose Commune, nous donnons la parole à David Legrand, gérant de la société Paysages Comestibles située à Montpré-Chambord. David Legrand est paysagiste et a choisi d'aborder différemment la conception, l'aménagement et la gestion de projets paysagers de particuliers. Une conception esthétique, mais pas seulement. Une conception qui propose d'envisager nos jardins comme refuge écologique pour la biodiversité. Bonjour David.
Bonjour.
Alors merci d'être venu à ZEF aujourd'hui pour nous parler de ton activité et puis de la façon dont tu essaies d'instiller un peu d'écologie, de respect de l'environnement dans ta pratique de paysagiste. Alors je voulais commencer par une première question. Qu'est-ce qui t'a donné le goût du paysage ?
Oh, c'est une très vieille anecdote. C'est vrai que c'est une histoire un peu atypique. Ça remonte à l'époque où j'étais au collège, enfin juste avant de rentrer au collège. Donc ça fait quand même quelques années maintenant. Il restait 6 géraniums à planter chez mes parents. Et du coup, ma mère n'avait pas le temps de le faire. Et donc, j'ai dit, écoute, je vais essayer. Je vais mettre ça en place. Et en plantant ces 6 géraniums, je ne sais pas, il a dû se passer quelque chose, puisque c'est comme ça qu'est né mon attachement, en tout cas, à vouloir aménager les jardins, puis pouvoir être au contact de la nature.
Comment tu as débuté l'aventure de paysages comestibles ?
Alors, c'est un parcours atypique. Faut savoir que Paysages Comestibles, aujourd'hui, c'est quand même ma troisième entreprise. J'avais tenté une première expérience en 2014 avec un associé. Et puis, finalement, on n'a pas réussi à développer le projet comme on le souhaitait. Donc, à la suite de ça, je me suis retourné sur une deuxième structure qui m'a permis d'essayer d'appréhender un peu le marché du paysage, mais avec une approche quand même beaucoup plus écologique, beaucoup plus en lien avec l'environnement, au travers d'une structure où je faisais du conseil en aménagement de jardin et puis aussi un peu d'atelier pédagogique, puisque j'aime beaucoup transmettre ce lien à la nature, ce lien à la terre. Et puis finalement, chemin faisant, les demandes se précisaient un peu plus et je pressentais qu'en fait, il y a des gens qui étaient prêts à passer ce cap de vouloir confier l'aménagement de leur jardin dans cette démarche. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé en 2019 à du coup construire Paysages Comestibles.
Alors Paysages Comestibles, donc c'est dans la même idée que Jardin Naturel, ton entreprise précédente, l'envie de conseiller des particuliers sur l'aménagement des jardins et tout en cherchant à contribuer à la préservation et à la régénération de l'environnement. Est-ce que tu t'ouvres aussi à des collectivités pour le moment ou seulement toujours à des particuliers ?
Alors au démarrage, je travaille toujours d'ailleurs actuellement qu'avec des particuliers. Dans ma carrière précédente, avant d'être gérant, j'étais amené à piloter de nombreux marchés publics, donc avec les collectivités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne me sens pas forcément prêt à retravailler avec des collectivités. Alors pourquoi pas si l'opportunité se présente ? C'est vrai qu'aujourd'hui, le cas, c'est pas particulièrement présenté en dehors d'une commune qui est au sud du département, mais où aujourd'hui, le projet est en stand-by. Mais pourquoi pas ? Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise, parce que c'est vrai que quand on démarre une aventure d'entreprise, ça reste un challenge. Il faut d'abord bien maîtriser son outil avant de vouloir aller plus loin.
Et quelles sont les demandes les plus fréquentes ?
Alors, est-ce que c'est le nom de l'entreprise qui attire ? Je pense que oui, mais j'ai de plus en plus de demandes pour tout ce qui est aménagement de potager, de verger. On a, en tout cas dans les demandes des clients, on a de plus en plus de demandes de variétés anciennes. On n'a pas besoin d'utiliser de pesticides, d'insecticides. Et puis surtout, revenir à des aliments qui ont du goût. C'est aussi une des recherches quand les gens aujourd'hui font appel à notre structure pour aménager le jardin.
Donc quand tu débutes un aménagement de jardin avec un particulier, comment tu t'y prends au départ ? Est-ce qu'il y a une analyse des sols ? Comment tu t'adaptes aussi à ce que souhaite le particulier ?
Alors, premier exercice, hein, et c'est capital, et j'ai envie de dire, dans toute stratégie économique, puisque là, on est bien à l'échelle d'une entreprise, la première opération, c'est prendre contact avec le client, aller à sa rencontre, parce que c'est important de faire connaissance avant même de parler de relations commerciales. À la suite de ça, bien écouter les demandes, les attentes du client. Alors, il y a des fois, il arrive qu'il y ait des gens qui aient des demandes très précises. Et comme c'est souvent le cas d'ailleurs, les gens ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. Donc le but du jeu, c'est de les accompagner petit à petit à définir les lignes de leur projet, tout en mettant en avant le fonctionnement de l'entreprise et ce vers quoi nous on souhaite travailler. Donc favoriser la biodiversité, pouvoir créer des niches écologiques et surtout rendre le client acteur de son propre projet. Ça, pour moi, c'est quelque chose de capital. Il faut que le client qui initie un projet puisse être acteur à 100%, puisse décider, puisse poser des questions, s'intéresser vraiment. C'est la partie prenante et c'est vraiment le gage qui permet de réussir un projet d'aménagement. Puisque pour qu'un client soit satisfait, il faut que ça puisse répondre à sa demande.
Donc tu as une expérience professionnelle en tant que paysagiste. Qu'est-ce qui a fait à un moment que tu t'es tourné plutôt vers l'éco-paysagisme ?
Alors éco-paysagisme, c'est rigolo, j'avais jamais entendu ce terme, mais je le note. Qu'est-ce qui m'a réorienté ? Ça remonte aux années 2011-2012. À l'époque, je préparais mon BTS donc en aménagement paysager. Et en parallèle, je travaillais, donc, comme je le disais tout à l'heure, sur des gros aménagements de marché public. Et j'avais du mal à trouver la corrélation et les interactions entre le métier de paysagiste, qui pour moi a une responsabilité en matière d'aménagement du territoire. C'est difficile pour moi de concilier écologie et aménagement de marché public. Je ne trouvais pas forcément de sens, on faisait des choses très esthétiques. Mais il manquait ce filon-là, et donc je me suis réinterrogé à cette époque en me disant je vais essayer de trouver une entreprise qui tend à aller vers cette démarche-là, où je pourrais être effectivement salarié. Sauf que raté, à cette époque-là, je n'avais pas trouvé d'entreprise. Et c'est comme ça qu'est née l'idée, effectivement, de créer ma propre structure pour créer mon propre emploi, en fait, finalement. C'était vraiment l'idée de départ, et pouvoir essayer de travailler dans la démarche que je souhaitais, ou en tout cas la vision du paysage telle que je souhaite l'avoir.
Et du coup, quelle est cette vision du paysage ?
Alors, l'idée est vraiment le jardin fait partie d'un paysage et non l'inverse, en tout cas pour moi. C'est important de bien avoir cet élément en tête. Au-delà de ça, une fois qu'on sait que le jardin appartient vraiment au paysage, on va vraiment chercher à créer tout un tas d'interactions, alors avec les micro-organismes qui sont présents dans le sol, puisque c'est important pour l'équilibre de l'être humain. C'est ce qui permet notamment la transformation de la fameuse matière organique. Sans activité biologique dans les sols, c'est comme si on n'avait plus d'abeilles dans quelques années, tout s'arrêterait. Mmh. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des abeilles, on parle un petit peu moins de ce qui se passe sous nos pieds. Ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est vraiment aussi préserver ou créer des habitats pour que notamment les oiseaux, les insectes, puissent se développer et se reproduire. Donc l'idée est de tendre vraiment vers ça.
Souvent, on parlait des mares dans une précédente chose commune, et souvent les gens peuvent avoir peur, par exemple, d'aménager dans leur jardin une mare parce que ça attire les rongeurs, les animaux de toutes sortes. Est-ce que tu fais face parfois à des réactions de clients qui sont un peu dubitatifs?
Alors ça peut arriver. Bon, après il s'agit bien entendu de les rassurer et finalement de réexpliquer que un biotope, donc un milieu de vie, quand il est... Alors au début il faut qu'il s'équilibre, il faut que le milieu naturel entre guillemets qu'on souhaite recréer puisse s'équilibrer, donc il y a un petit peu de surveillance effectivement à avoir au démarrage. Mais une fois qu'on a vraiment ce milieu équilibré avec le système prédateur qui se régule et qui s'auto-régule tout seul, globalement, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, on est plus dans une démarche où effectivement, ça peut arriver qu'il faille rassurer les gens, mais globalement, voilà, on n'a pas de frein, en tout cas pas d'hostilité particulière.
Est-ce que les beaux paysages sont aussi de bons paysages ?
Eh bien, j'ai envie de dire beau et bon, c'est très subjectif, c'est propre à chacun. C'est vrai que le métier de paysagiste n'est pas un métier très très vieux en soi, en fait. On aménage depuis très longtemps les jardins, mais à l'origine, on aménageait les jardins pour l'aspect nourricier, qu'on a un peu petit à petit laissé de côté, pour aller vraiment vers purement de l'esthétique, alors avec des matériaux nobles, des très beaux végétaux. Alors, je continue à le faire, mais pour moi, c'est important de trouver l'équilibre aussi avec le milieu de vie dans lequel on va installer les plantes, quelle va être la traçabilité sur les matériaux, pour réfléchir un peu à l'impact carbone et les conséquences que peuvent avoir certaines décisions. Je sais qu'aujourd'hui, je fais le choix, pourtant c'est très en vogue encore, mais l'aménagement, plantation d'oliviers, alors très souvent autour des palmiers, en tout cas autour des piscines, c'est quelque chose que je refuse de faire pour deux raisons. La première, c'est qu'au plan écologique, c'est quand même une catastrophe, puisqu'on implante une plante qui n'est pas du tout adaptée à son milieu. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est tout l'impact qui va se trouver derrière. Si on prend, par exemple, les jolis oliviers qu'on va pouvoir trouver là très bientôt dans les jardineries, voilà, en opération promotionnelle très souvent. Il faut savoir que c'est arraché dans les milieux naturels, donc en Espagne, Italie essentiellement. C'est des anciennes productions où les arbres sont épuisés, donc ils ne sont plus destinés à produire, donc on les arrache. Dans des conditions qui sont quand même assez catastrophiques, les arbres sont quand même plutôt massacrés. On leur sectionne une grosse partie de racines, une grosse partie de branches pour les faire rentrer dans un conteneur en plastique. Donc là, déjà, l'impact carbone est quand même catastrophique. Ensuite, il faut mettre des véhicules sur la route pour transporter ça. Et en plus, on exploite quand même de la main-d'œuvre. Il faut savoir que on n'a pas la même, notamment Italie, Espagne, on n'a pas du tout la même réglementation en matière de droit du travail. Et on a des gens, effectivement, qui sont rémunérés 3 à 4 euros de l'heure pour faire des travaux extrêmement ingrats et où l'impact carbone et l'impact écologique est catastrophique. Donc il y a l'aspect écologique, mais il y a aussi l'aspect sociétal. C'est un peu le sens de la démarche dans l'entreprise. C'est de ne pas faire que du paysage, c'est aussi, si on veut aller vers un changement de société, aujourd'hui on sent que les choses frémissent un peu, ça bouge, mais si on veut pouvoir aller plus loin, il faut voir plus large que le prisme de l'écologie, et bien prendre en compte l'aspect sociétal, l'aspect économique, et essayer de coordonner du mieux qu'on peut tout ça.
Et cette démarche globale, est-ce que tu réussis aussi à la mettre en œuvre pour ce qui est de la traçabilité, par exemple des plantes que tu vas utiliser, ou bien aussi dans tes infrastructures ?
Alors, sur le choix des matériaux, en tout cas pour la réalisation des chantiers, donc dans le cadre du végétal, j'essaye de rester le plus possible sur des producteurs locaux, j'essaye de ne pas sortir du Loir-et-Cher ou de l'Indre-et-Loire. Et quand j'ai besoin effectivement d'arbres ou de choses comme ça, on descend un petit peu plus du côté de Nantes et Angers, qui sont des régions très productrices par rapport à ça. Mais je me refuse à des végétaux qui viennent d'Italie ou encore d'autres pays. Parce que, encore une fois, on en a souvent après les normes en France parce que ça complexifie beaucoup les choses. Mais d'un autre côté, quand on n'a pas suffisamment de règles, typiquement sur la production de plantes, on a des choses dopées à l'engrais dès la naissance. Et puis quand la plante elle arrive chez nous, on la met dans nos sols qui sont quand même pas extraordinaires, en tout cas en Loir-et-Cher en termes de fertilité, la plante elle peine au maximum. Donc des choses sous perfusion, c'est pas durable en tout cas. Plus tout l'impact, comme on évoquait tout à l'heure, l'impact carbone, puisque là, il faut encore mettre de nombreux camions sur la route, quoi.
Tu parlais du fait que les sols en Loir-et-Cher sont peu fertiles. Mmh. Est-ce qu'il y a des façons de les régénérer quand on fait un aménagement paysager ?
Alors aujourd'hui, oui. Alors je ne fais pas forcément d'études de sol sur tous les projets, mais sur les projets à dimension nourricière, j'essaye, parce que c'est important déjà de savoir un peu le taux d'activité biologique qu'on a dans le sol. Et de plus en plus, en tout cas sur les aménagements qu'on réalise, on apporte quand même de la matière organique, essentiellement du compost, qui est produit sur la plateforme de Blois, en tout cas à Fossé. Hein, donc c'est lié aux déchets verts de l'agglomération, donc ça permet de rester dans un circuit à peu près court, j'ai envie de dire. Et on alimente de plus en plus nos sols pour aider les plantes à démarrer et surtout pouvoir redémarrer une activité biologique dans le sol. Et au-delà de ça, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle du paillage, donc un matériau qui va effectivement permettre de garder un peu plus l'humidité au niveau du sol, limiter un peu la concurrence entre les différentes plantes voilà, qui peuvent se développer. Et au-delà de ça, en se dégradant, ça permet aussi d'enrichir le sol, réinstaurer du champignon au sein du sol, ce qui permet de relancer en fait le processus pour que ensuite les micro-organismes puissent venir s'installer et se développer.
Je te propose une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
C'était le tien, ton âme sensible et profonde. Plus tu grandis, plus elle s'abstient. Façonnée de plus en plus tôt pour se révéler de plus en plus tard. Avoir du cœur devient un fardeau lorsqu'on marche pressé sur les trottoirs. Cours petit homme, cours petit homme. Continue ta course aux chiffres tout en laissant ton esprit en friche. Compte petit homme, mais quand on aime, on ne compte pas. Mets le vivant dans des cages, construis ton monde sur un mirage. Contrôle ce qui vit et respire, tu as bien des désirs à assouvir. Compte petit homme, vas-y compte sur tes doigts. Mais quand de ta main j'aurai besoin, pourrais-je compter sur toi? Cesse d'augmenter, raconte-moi l'amour. Je veux le vivre, peu importe le coût de tes calculs, je me fous. En somme, c'est l'infini le rendez-vous. Petit homme, arrête-toi, petit homme, arrête ta course folle. Tu ne doubleras personne.
Et nous sommes toujours dans la chose commune et nous accueillons aujourd'hui David Legrand, gérant de l'entreprise Paysages Comestibles de Montpré-Chambord. David, tu nous expliquais cette démarche engagée que tu cherches à avoir dans l'aménagement, mais aussi dans la vie de ta société. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette démarche engagée que tu as aussi dans, par exemple, l'hébergement de ton site web, des choses très de communication et très pratico-pratiques, mais qui s'inscrivent aussi dans cette démarche-là?
Alors plusieurs enjeux, c'est vrai qu'on le développe aujourd'hui chez nos clients, mais avant tout j'ai envie de dire c'est aussi l'ADN même de l'entreprise, et puis une ADN finalement personnelle, hein, puisque le gérant a sa part de responsabilité dans tout ça. J'ai fait le choix dès le début pour le site internet, d'avoir un hébergeur français pour que les datas puissent être stockées en France et qu'elles ne fassent pas 15 ou 20 000 km pour ensuite revenir sur des serveurs français. Donc ça a pu se faire grâce à un serveur qui est du côté de Grenoble, donc ça reste quand même sur le territoire national. Et au-delà de ça, on sait que les data centers sont des choses très très énergivores, et donc je souhaitais que ce soit une alimentation à 100% aussi en électricité verte et renouvelable.
Est-ce que parfois tu te confrontes encore à certaines limites dans les matériaux que tu utilises ou tu es obligé de faire des commandes à l'étranger ?
Il y a encore quelques matériaux, notamment sur les pièces d'arrosage automatique, puisqu'on réalise beaucoup d'installations d'arrosage automatique pour accompagner les aménagements. Alors aujourd'hui, on a effectivement des revendeurs qui sont, eux, bien en France, même en Loire-et-Cher. Le bémol, c'est que tout reste usiné en Chine, en fait. Et aujourd'hui, typiquement sur ce type de pièces, j'ai pas de débouché qui me permette d'aller au bout de la démarche. Donc on se confronte aussi à la réalité du monde dans lequel on vit et qu'il y a certaines situations où malheureusement aujourd'hui on ne peut pas faire autrement. Alors, j'ose espérer que les choses vont avancer. Hein. La crise Covid qu'on a traversée a réinterrogé quand même pas mal d'entreprises sur leur fonctionnement, sur leur circuit d'approvisionnement. Puis bon, l'actualité du moment incite aussi d'autres entreprises à s'interroger. Donc j'ai bon espoir qu'on puisse avancer encore davantage. Mais voilà, il reste encore certains freins par rapport à tout ça. Ouais.
Et quel impact a eu la crise sanitaire sur ton activité ?
Eh ben, j'ai pas particulièrement été impacté en tant que tel. Alors c'est vrai qu'au tout début du premier confinement, j'attaquais tout juste ma deuxième année, donc qui est la période un peu critique, si je puis dire, dans le développement d'une entreprise. Hein. Les trois premières années sont les plus complexes. Et à ce moment-là, j'ai tenté un pari un peu fou. La veille du premier confinement, j'avais acheté des plants de légumes chez un producteur du Loir-et-Cher, en me disant il faut que je fasse de la trésorerie. Et c'est là où on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure. On reste un chef d'entreprise, donc il y a quand même un certain nombre de charges qui incombent à l'entreprise et qu'il faut assurer. Et donc là, on en revient à la réalité économique. Et à ce moment-là, je me dis il faut que j'arrive à faire un peu de trésorerie pour au moins tenir quelques semaines, en attendant de voir ce qui va découler. Et puis finalement, ça a plutôt bien fonctionné. J'achète ce stock de plantes. Le lendemain, j'appelle tous mes clients que j'avais déjà à cette époque-là. Et eux ont tous joué le jeu. Donc ça m'a permis de passer les premières semaines, en tout cas de confinement, l'esprit à peu près tranquille. Et ça m'a laissé le temps de me réorganiser en fait pour trouver mes circuits d'approvisionnement pour les chantiers. Et puis, chemin faisant, du coup, l'entreprise a continué à croître. Donc, tant mieux pour moi, puisque ça m'a permis, en fin d'année dernière, d'aller vers un premier recrutement d'un salarié. Et l'entreprise continue, l'activité continue à se développer gentiment. Et j'ai bon espoir là, d'assurer un second recrutement sur le printemps de cette année, alors qu'il y a une dimension que je n'avais pas forcément imaginée au début du projet. Hein. J'avais plus créé ce projet certes pour me faire plaisir, pour créer mon outil de travail, donc je me voyais bien gérer effectivement mes petits clients, mes petits chantiers. Bon, l'activité croissant, c'est chouette finalement de pouvoir créer des emplois aussi autour de cette démarche-là.
Et donc le salarié que tu as pour le moment occupe aussi un poste de paysagiste ?
Ouais, tout à fait. Il est aussi même plus qualifié que moi en termes de diplôme, puisqu'on n'a pas tout à fait le même parcours. Mais c'est quelqu'un qui est aussi très engagé dans l'environnement, qui au plan personnel est aussi très engagé en faveur de la préservation, du changement qu'il est nécessaire d'orienter aujourd'hui. Et c'est vrai que tout de suite, dans la mesure où on parle la même langue, je veux dire, chacun s'y retrouve et ça permet à l'entreprise de croître. Et puis, au plan humain, c'est une belle aventure parce que c'est enrichissant pour le salarié, mais aussi pour le chef d'entreprise que je suis.
Est-ce que dans ta formation, tu as pu, quand tu as choisi de te lancer dans une démarche plus respectueuse de l'environnement, est-ce que tu es allé te former auprès d'autres paysagistes ou est-ce que tu as réussi à trouver des atouts, des ressources ou ça reste quand même un marché de niche ?
Alors aujourd'hui, ça reste, en tout cas en France, ça reste aujourd'hui un marché de niche qui tend à s'étendre. Hein. Alors, ces deux dernières années avec la crise Covid, j'aurais pensé que le marché serait un peu plus orienté là-dessus. Et au vu des chiffres là, qui viennent de tomber sur l'année 2021, le nombre de paysagistes s'orientent davantage sur le marché de la piscine. Ce qui me laisse finalement moi, un peu de marge de manœuvre pour anticiper les années qui viennent, donc c'est pas mal. Mais voilà, j'aurais eu bon espoir. Bon, finalement, ça, c'est pas trop ce qui se dessine, mais voilà, on sent en tout cas les clients qui s'intéressent plus à de la démarche de circuit court. Quel est l'impact finalement de faire un aménagement donc, c'est plutôt encourageant.
J'imagine que c'est un travail beaucoup de saisonnabilité. Est-ce qu'en ce moment, quels sont les plantes ou les massifs que tu vas plutôt favoriser ?
Alors là, on est pile sur la période de transition entre donc, la sortie de l'hiver et l'arrivée du printemps, où effectivement la végétation se relance. Donc là, on est beaucoup dans de l'entretien de plantes vivaces, puisqu'en sortie d'hiver, c'est la période où on les nettoie pour qu'elles puissent se redévelopper dès le printemps. Et puis, on va pas tarder, là, j'attends que les derniers petits coups de froid matinaux soient passés, pour engager tout ce qui est plantation, effectivement, de plantes aromatiques, plantes médicinales. Puis on a encore quelques plantations, en tout cas sur un chantier, la plantation de vivaces. Là, j'ai bon espoir. On est sur l'étude d'un projet d'aménagement d'une mare écologique avec un potager 100% en permaculture. Donc c'est en cours de négociation. Donc j'ai bon espoir que ça voie le jour là, sur le printemps 2022. Et qui, du coup, finaliserait la démarche dans laquelle j'ai voulu m'engager il y a quelques années. Et ce serait une belle réussite d'arriver jusque-là, quoi.
La permaculture, c'est aussi un domaine qui te tient à cœur.
Alors depuis très longtemps, hein, ça fait plus de 10 ans maintenant, où j'étudie alors beaucoup de manière autodidacte finalement, parce que je suis plutôt autodidacte que scolaire. Mais du coup, c'est une autre méthode. Et c'est vrai que j'adore beaucoup chercher des informations, trouver des nouvelles techniques, être toujours à l'affût en fait d'un truc nouveau, et qu'ensuite je puisse effectivement le proposer. Alors soit à des clients ou même des fois à des amis, voilà, quand on discute, tiens, tu pourrais tester ça, ça peut être amusant.
Et la permaculture, on peut l'utiliser aussi pour un tout petit massif où il faut quand même une surface minimum.
Pour vraiment avoir coché toutes les cases, j'ai envie de dire, des 12 aspects, en tout cas des 12 principes fondateurs de la permaculture, il faut, alors pas forcément un très grand jardin, mais voilà, on peut pas se limiter à un massif. Après, on essaye de tendre à aller vers, sachant que je parle très très rarement de permaculture en fait avec mes clients, j'explique plus souvent la démarche et finalement les principes de manière détournée, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde ce terme de permaculture. Donc, puis ça a été pendant un temps là un terme un peu fourre-tout. On a vu beaucoup d'ouvrages sortir sur le sujet, on a vu beaucoup de gens s'installer en tant que formateurs en permaculture. Et du coup, moi, ça m'a posé question. J'ai préféré me retirer un peu de cet axe-là, mais sans oublier l'ADN, et finalement le proposer de manière détournée, en étant sur du circuit court, en revalorisant notamment les déchets qu'on produit dans les jardins quand on fait de l'entretien. Le but du jeu, c'est que ça ne sorte pas du jardin. On essaye de le revaloriser à 100% sur site. Voilà, donc c'est... À chaque fois, c'est des petits exercices, mais qui permettent finalement d'aller vers ce qu'on appelle la permaculture, mais sans en dire réellement le nom.
Est-ce que le fait de réinventer et réenvisager son jardin, ça change la vision qu'ont les particuliers de l'accès à la propriété ou leur regard sur leur propriété ?
Ça peut. C'est pas automatique, j'ai envie de dire, mais en tout cas, ça interroge beaucoup les gens quand on parle de préserver la ressource en eau, de s'interroger finalement d'où viennent les matériaux, quelle est l'incidence qu'il peut y avoir derrière, le fait de recruter des gens qui sont aussi, ça pèse beaucoup dans la balance, de recruter des gens qui connaissent le métier, qui savent de quoi ils parlent, ça rassure le client et en fait, ça permet de l'accompagner petit à petit dans la démarche. Je le vois sur un projet sur Blois. J'avais des clients qui étaient plutôt déjà un peu engagés dans la démarche permaculture, mais ils étaient au stade de « je lis le livre », jusqu'à relancer vraiment tout le projet de réaménagement complet du jardin. Et donc l'an dernier, on a pu travailler complètement sur le fait de recycler les eaux grises de maison, d'en stocker une partie, et on le revalorise pour arroser le jardin au travers du réseau d'arrosage automatique. Donc... quand on franchit un cap comme celui-ci, c'est pas anodin. Bien sûr que les clients derrière s'interrogent, ça impose un changement de pratique personnelle. Et pour moi, ça reste une victoire, puisque dans chaque jardin, si on arrive à faire ça, je me dis que finalement, la fameuse transition écologique dont on parle beaucoup va pouvoir se faire et sans qu'elle se fasse de manière brusque, en fait. Parce que tout changement de société qui se fait de manière brutale n'a tendance à ne pas tenir dans le temps, puisque on le sait hein, maintenant au travers de l'histoire que tout changement brutal de société généralement ne va pas loin. Il faut aller vraiment dans une transition et surtout bien expliquer et que les gens comprennent bien la démarche.
Mmh. Être paysagiste, c'est un peu être à la fois rat des villes et rat des champs.
On peut dire ça comme ça.
Qu'est-ce que tu en penses?
Rat des villes, alors oui, puisque bah, on le voit, en tout cas, je travaille beaucoup sur le secteur de Blois, hein, mais on est très rapidement quand même en campagne hein, dès qu'on sort de Blois, et ça impose de devoir s'adapter aussi à des contextes sans arrêt qui sont différents, des attentes différentes de la part des gens. Et finalement, c'est ça qui fait toute la richesse de notre métier. C'est de toujours devoir s'adapter, toujours devoir s'interroger. Tiens, un projet d'aménagement que j'ai fait à tel endroit, là, il ne pourra pas convenir parce qu'on n'a pas le même type de sol, on n'a pas les mêmes attentes, le contexte géologique n'est pas le même. Voilà, donc ça impose sans arrêt de s'interroger. Et finalement, je crois que c'est ça qui me plaît le plus.
Est-ce qu'il y a parfois eu des projets sur lesquels tu n'as pas réussi, entre guillemets, à aller au bout du projet, du fait de l'environnement ou je ne sais pas?
Alors, ça ne m'est pas encore arrivé. Là où ça peut buter quelquefois, entre guillemets, c'est sur une démarche engagée. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous contactent qui ne sont pas forcément engagés dans une démarche. Eux veulent refaire le jardin, voilà, et ça reste, bah, effectivement, j'ai besoin de refaire le jardin, j'appelle le paysagiste. Quand on leur explique la démarche, j'ai eu le cas là, récemment, il y a quelques semaines, sur un monsieur qui voulait faire une haie totalement de bambou. Alors, je lui explique gentiment que en tout cas, paysage comestible ne fera pas, pour tout ce qu'on a expliqué auparavant. Et finalement, je m'attendais au moment d'envoyer le devis à un refus catégorique. Et c'est là où je me dis que quelquefois, on peut gagner des victoires au fil de l'eau. Parce que finalement, le client me réinterroge en me disant, bah, du coup, ok, j'ai bien compris pour les bambous, pourquoi non? Parce qu'en plus, il n'avait pas du tout un sol qui s'y prêtait. Et puis, l'aspect écologique n'est pas du tout, est vraiment pas bon pour la biodiversité avec ce type d'essence. Et là, il est en train de s'interroger, à me dire, bah, finalement, si je fais ça, qu'est-ce qu'il faut que je prévoie comme entretien derrière? Donc, on sent que ça chemine quand même. Et ça, ce sont certes des petites victoires, mais des victoires malgré tout. Et j'ai bon espoir qu'avec ce client-là aussi, on puisse aller au bout.
Le paysage, c'est d'abord une culture du territoire. Qu'est-ce qui fait que tu es attaché au territoire loir-échérien? Est-ce que tu as déjà été amené à travailler sur d'autres territoires avec des caractéristiques différentes?
Alors, par le passé, oui. Aujourd'hui, avec Paysage Comestible, je reste essentiellement sur le Loir-et-Cher, et même, j'ai même envie de dire, l'agglomération de Blois pour le moment. Mais par le passé, oui, j'ai eu différentes expériences professionnelles qui m'ont amené à travailler un peu partout en France. Donc, à chaque fois, on s'interroge sur les conditions géologiques, météorologiques, et ça, c'est extrêmement enrichissant. Tout en sachant que je suis malgré tout pas originaire du Loir-et-Cher, je suis originaire du bassin parisien et je suis arrivé en Loir-et-Cher vraiment par hasard et finalement j'y suis resté.
Tu parlais tout à l'heure de la difficulté de la transition, si elle est brutale, avec la démographie mondiale actuelle, comment on peut réussir à allier la production alimentaire et à la fois conserver des espaces pour la vie sauvage? Et est-ce qu'au niveau local, j'imagine que c'est des questions qui te parlent, ces enjeux globaux?
Alors, effectivement, il y a la dimension locale, dimension internationale, j'ai envie de dire. Alors, effectivement, la démographie augmente aujourd'hui. Là, on rentre sur un sujet un petit peu plus politique, mais au contraire, ça me plaît qu'on en parle. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, en termes de production alimentaire mondiale, de mémoire, c'est 95-96% de l'alimentation mondiale qui est produite par des petites fermes, ou en tout cas de l'activité paysanne familiale, et que finalement, tout ce qui est lié aux multinationales ne représente que 4%. Donc en fait, c'est un faux discours de nous faire croire que si demain on est 12 milliards d'êtres humains sur la planète, on ne pourra pas tous se nourrir. Moi, je le constate au quotidien, hein, la nature a une capacité de résilience, parce qu'on maltraite quand même un peu notre planète, hein, et quand on voit la capacité qu'ont les sols, qu'ont la biodiversité à se restaurer malgré tout ce que l'on fait, et qu'au-delà de ça, tout ce que la Terre est capable de produire, moi je suis plutôt confiant par rapport à ça en fait. Si demain il y a plus de démographie, puis bon, on l'a vu hein, ces deux dernières années, hein, de temps en temps il y a une épidémie qui vient faire un peu de ménage pour rééquilibrer un peu les choses, donc Ça, c'est un sujet un petit, effectivement qu'on raisonne un peu plus à l'aspect mondial, mais au local, en tout cas, dans chaque jardin, si on arrive à faire des choses qui vont dans la démarche, en tout cas, qu'on souhaite développer, bon, ça permet aussi d'avancer, en tout cas, à mon sens, dans la bonne direction. Bah, pour la petite note de la fin, c'est vrai que cette création d'entreprise, c'était un peu un pari, hein, finalement. Parce qu'il faut savoir qu'au début du projet, j'ai quand même mis 9 mois à trouver une banque qui veuille me suivre dans mon projet. Et je ne remercierai jamais assez Initiative Loir-et-Cher, hein, donc une structure associative, elle aussi, qui accompagne les porteurs de projets pour renforcer en fait les trésoreries de démarrage du plan personnel. Et derrière, ça a un effet levier important sur les banques. Et c'est ce qui m'a permis en fait de lancer mon projet. Mais c'est vrai que pendant 9 mois, il a fallu batailler. Et j'avais du mal, même dans mon entourage proche, hein, personne ne croyait à mon projet. Donc c'est vrai qu'il a fallu que je m'accroche beaucoup, à part 2-3 irréductibles autour de moi qui connaissent mon côté un peu farfelu. Voilà, m'ont toujours poussé. Après, sorti de là, voilà, ça a été compliqué. Et quand je vois que je suis au point aujourd'hui d'arriver à une deuxième création d'emploi en temps plein, bah, je me dis que finalement, ouais, c'est plutôt chouette. Aujourd'hui, en tout cas en France, on a quand même cette chance d'avoir beaucoup de structures. Quand on accepte de pousser les portes ou de décrocher son téléphone voilà, pour prendre des rendez-vous, on a quand même un certain nombre de structures qui sont là pour nous accompagner, nous aiguiller. Chose qu'on n'a pas forcément dans d'autres pays. Et je trouve que c'est important de le souligner parce qu'on a effectivement un maillage administratif lourd et complexe en France, mais c'est très lié aux pays latins finalement. Mais à côté de ça, on a quand même énormément de dispositifs qui permettent à un certain nombre de personnes de pouvoir créer leur projet et surtout d'y croire. Et quand on vit son propre projet, c'est extrêmement encourageant et valorisant.
Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.